Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Des versets très connus. Jean chapitre 1 et au verset, je vais lire les 14 premiers versets. Et c'est le verset 14 qui va nous intéresser, le verset 1 et le verset 14, surtout ce matin. Donc Jean chapitre 1 et je vais lire les 14 premiers versets. Je vous ai dit dimanche dernier que Jean ne parle pas de la naissance de Christ, ne décrit pas la naissance de Christ, justement parce qu'il nous présente la divinité de Christ, Jésus Dieu, et donc Dieu n'a pas de jour de naissance, hein, c'est Jésus homme qui est né, mais sinon Dieu n'a pas eu de naissance, et donc il parle au commencement, et le commencement c'est le même commencement que Genèse chapitre 1, verset 1. Donc Jean chapitre 1, et je commence à lire, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jésus fait partie de ces personnes dont le passage a quand même laissé un impact, et un tel impact qu'il est connu de tous. Même ceux qui ne veulent pas croire en lui, même ceux qui le rejettent, le connaissent. Hein, il est connu de tous. Certains hommes ont eu une influence passagère, ou bien géographiquement limitée. Ce sont des personnes qui ont marqué un temps, et puis après, ils sont passés. Il y a d'autres, comme Louis Pasteur, par exemple, qui, lui, eh bien, nous a fait connaître le principe du vaccin et comme moyen de protection et nous l'utilisons toujours. Hein, donc il a quand même laissé des traces et nous sommes... Mais Jésus, par son passage, a transformé des millions de vies. Hein, combien de personnes ont été changées, quelle que soit leur culture, quelle que soit leurs origines, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont entendu parler de Jésus. Combien de personnes ont été transformées? Et même l'un des disciples de Jean exprime de manière inhabituelle cette venue du Seigneur, et c'est ce que nous lisons ici au verset 14. Il parle de la naissance de Jésus et lui dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venant du Père. Et on est là, d'accord, on a l'impression que c'est un verset qui contient beaucoup de choses. Mais on ne saisit pas tout. Mais si nous l'associons avec le verset 1, hein, donc le verset 1 du même chapitre, dit « Au commencement était la parole », la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et alors là, on commence à comprendre un peu mieux, hein, mais là, c'est encore... vous remarquez, peut-être vous n'avez pas remarqué, mais là, dans chacun de ces versets, en fait, il y a trois pensées. Hein. Dans le verset 14, il dit « La parole a été faite chair », première pensée. Deuxième pensée, « Elle a habité parmi nous ». Et troisième pensée, « Pleine de grâce et de vérité ». Et au verset 1, nous trouvons la même chose. Il dit « Au commencement était la parole ». Deuxièmement, « La parole était avec Dieu ». Et troisièmement, « La parole était Dieu ». Donc, c'est un peu comme la poésie hébraïque. Et donc, il y a trois pensées. Et si vous preniez la première pensée de chacun, et ensuite les deuxièmes pensées, et puis ensuite les troisièmes pensées, vous pourrez lire « Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair ». Vous pourrez lire « La parole était avec Dieu ». Et elle a habité parmi nous. Et le mot habiter dans le grec, là, c'est le fait de planter une tente, hein, de s'installer. Et puis la troisième pensée, vous prenez les deux troisièmes pensées, il dit la parole était Dieu, et elle était pleine de grâce et de vérité. Et là, tout d'un coup, les choses commencent à prendre un sens plus clair. Hein. Je relis, il dit donc au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. La parole était avec Dieu et elle a habité avec nous, parmi nous. Et troisièmement, la parole était Dieu et elle était pleine de grâce et de vérité. Et là on commence parce que sinon, il y a ça, dans notre cerveau, quand on dit au commencement était la parole, on dit oui, d'accord, je le crois, mais qu'est-ce que j'en fais, hein? Ou bien quand vous lisez, la parole était avec Dieu. Oui, et alors, c'est bien, je le crois, oui, mais mon cerveau, il ne peut pas aller plus loin avec. Ou bien quand on dit, la parole était Dieu, bon, je peux méditer dessus, oui, mais après, qu'est-ce que... Mais lorsque on associe le verset 14, il dit, et cette parole qui était au commencement a été faite chair, là, tout d'un coup, ça vient à notre portée. Hein, et nous pouvons... parce que là, après, ça représente, nous voyons Jésus, hein, et Jésus homme que nous pouvons voir, étudier, contempler, et tout cela. Et là, tout d'un coup, cette parole qui était au commencement, tout d'un coup, ça prend un sens pour nous. Hein, où, quand la parole était avec Dieu, et puis après, elle a habité parmi nous. Et, ah, oui, Dieu, tel qu'il était, on ne peut pas le connaître, mais quand il est venu parmi nous, là, on a pu le connaître. Ou bien quand la parole était Dieu, d'accord, mais lorsque je l'ai entendue, lorsque je l'ai reçue et j'ai trouvé qu'elle était pleine de grâce et de vérité, ça change tout pour moi. Hein, et donc, et c'est là, en fait, c'est ça, là le cœur du message de Noël. Hein, ces notions qui sont abstraites pour notre cerveau. Eh bien, tout d'un coup, ça prend une forme que je peux voir, comprendre et étudier. Donc, ici, donc l'expression invisible de Dieu, qui était déjà là au commencement, donc à la création, elle était déjà là, eh bien, elle prend une forme humaine. Hein, tout d'un coup, c'est un peu comme vous allez à l'école et le professeur... vous récite un théorème de géométrie, et d'accord, mais bon. Hein. Et après, il va au tableau, à mon époque, dans tous les cas, c'était des tableaux noirs, hein, et il illustre par une forme géométrique, et il montre comment ça marche, il le démontre. Ah, là, je saisis. Hein, le théorème n'avait pas de sens, et puis tout d'un coup, là, quand il est matérialisé, il prend un sens. Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrive quand Jésus-Christ naît, c'est que le Dieu que l'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas connaître, qui était hors portée, même qu'il dira dans ce chapitre, il dira un peu plus loin, personne n'a jamais vu Dieu, Et même si on le voyait, eh bien, on ne pourrait pas vivre. Mais là, tout d'un coup, il a pris une forme que je peux étudier, que je peux voir, que je peux écouter. Et donc, il nous dit, justement, ce Dieu invisible, eh bien, il prend une forme humaine. Il nous dit, ce Verbe divin qui a établi sa résidence parmi nous. Il nous dit que cette manifestation avait des attributs, et elle avait les attributs de Dieu, et elle les a mis à notre portée pour que nous puissions les contempler. Les attributs de Dieu, tant qu'il était dans la gloire, eh bien, c'était difficile d'imaginer ce que ça représente. Mais quand c'est Jésus qui les vit et qui les manifeste, là, je peux saisir et je peux voir comment l'application, je peux voir l'application dans ma propre vie. Et donc, la naissance de Christ, oui, c'est la naissance du Sauveur, mais c'est la révélation de Dieu. C'est comme ça que je peux, un peu, dans mon... Là, avec le petit cerveau entre mes deux oreilles, là, je peux commencer à comprendre Dieu quand je regarde Jésus-Christ, celui qui est né à Noël. Et puis, alors, vous avez la réalité, et ce qu'on ne saisit pas, tout à l'heure, quand on a lu Colossiens chapitre 1, tout ça, on a lu tout ça, on dit, oui, c'est beau, je saisis pas tout ça. Mais lorsqu'on regarde Jésus-Christ, à la naissance, nous voyons après son ministère, nous voyons son comportement et sa marche parmi les hommes ses réactions et ses actions et ses silences et ses prononcements, eh bien, là, tout d'un coup, eh bien, ça, je comprends. C'est une personne que je peux saisir, que je veux suivre. Essayons de reprendre ces trois pensées, encore une fois. Premièrement, cette réalité qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, bien ce sont comme ça, tout simplement comme on vient de le dire, eh bien je ne sais pas comment l'appliquer dans ma vie de tous les jours, mais quand j'apprends que cette parole a pris une forme humaine, et là, je comprends comment pour ma vie et là ça me transmet des affirmations et me dira, c'est-à-dire là je commence à saisir, et même l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile dans sa première épître de Jean, donc là où il écrit aussi cette lettre qu'il écrit dans 1 Jean chapitre 1 et au verset 1 à 4. Donc 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4, là, il parle justement de ce Jésus. Il a dit qu'il est devenu chair, mais voilà ce que ça veut dire. 1 Jean chapitre 1, verset 1, il dit, « Ce qui était dès le commencement, et encore ce mot, commencement, ce que nous avons entendu, ça commence à être quelque chose que je saisis avec mes sens, vous voyez. Il dit, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, contempler, que nos mères ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Il dit, c'est Dieu, oui, qui était au commencement, mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons contemplé, on a eu le temps de vraiment l'observer. C'est de lui que nous parlons. Et même l'apôtre Pierre, dans sa... deuxième épître, donc 1 Pierre chapitre 1, et si je lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, 2 Pierre chapitre 1 verset 16, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Donc là, Pierre, il fait référence à la transfiguration de Christ sur la montagne. Il dit « Oui, on a vu, on était là, ça s'est passé devant nous. Jésus-Christ. » Et puis il y avait cette voix du ciel qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, on a pu saisir qu'il y avait un corps. Jésus-Christ était là. Hein, et Moïse et Élie ont été écartés, et il y avait Jésus seul. Et ils ont pu comprendre. Il a dit « Celui-là, c'est le Dieu incarné, c'est Dieu. » Et il a dit « Là, on peut saisir. » Et c'est de lui qu'on vous parle. Hein? On ne parle pas de quelque chose d'abstrait et on ne sait pas à quoi il ressemble, et c'est à chacun dans son imagination de se représenter Dieu, et c'est ce qui arrive pour beaucoup de gens, hein? Ils ne veulent pas lire la Bible, donc ils essaient de le représenter, et vous prenez n'importe quelle personne qui dit, prétend croire en Dieu, mais finalement tous n'ont pas la même définition, hein? Chacun, les uns ils ont un Dieu qui est là pour rendre service, et s'il ne rend pas service on se débarrasse de lui, on l'oublie, et s'il nous rend service, alors là, on le remercie, et puis on lui fait un petit monument, et chacun son idée de qui est Dieu et ce qu'il doit être, et on se limite à notre imagination, alors que Dieu nous est révélé, et il suffit d'observer là, Jésus-Christ pour se dire, voilà, je sais comment il est. C'est un peu, on vous parle d'une personne que vous ne connaissez pas, dans un pays lointain, et on vous envoie une photo, et ben, bon, d'accord, j'ai une photo, j'en sais pas plus. Mais après, si après il y a des personnes qui passent, il y a un de ses enfants qui passe, après il y a son épouse qui passe, et puis après s'il y a des gens qui ont travaillé avec lui qui passent, qui vous racontent sur lui, tout ça, plus il y a de témoignages, et chacun avait une relation un peu différente, et chacun raconte, là vous commencez à vous faire une idée de qui est cette personne. Hein, vous allez voir ses comportements, ses réactions. Ben là, ce n'est pas seulement des témoignages, mais il y avait les prophètes qui ont rendu, qui ont parlé, qui ont tout fait pour... Mais à la fin des temps, comme il dit dans Hébreux chapitre 1, eh bien, le Fils a été révélé. Il est venu, il est là pour l'observer, il est dit, le voilà, vous pouvez voir qui il est. Et c'est ce qui arrive, ce qui est arrivé là, donc le jour de Noël, quand Jésus-Christ est venu, c'est pour que nous puissions nous faire une idée plus juste de qui est Dieu. Hein? Et il y a assez qui est révélé de par les paroles des prophètes et de par la vie de Jésus. Il y a assez qui est révélé là pour vraiment nous lever les yeux, pour nous encourager à lever les yeux et suivre et faire confiance au Dieu. Donc, oui, il est celui qui est dès le commencement. Deuxièmement, il nous dit qu'il nous a, il a dressé, il a habité parmi nous, il a dressé sa tente parmi nous. Et donc, c'est-à-dire l'image, c'était que Jésus est venu, il a vécu parmi les hommes. Mais lorsqu'il nous dit qu'il a dressé sa tente parmi nous, ça nous fait penser tout de suite au tabernacle. Hein, dans l'Ancien Testament, le tabernacle a été dressé et qui était là au milieu du camp. Jeudi dernier, lorsque nous faisions l'étude dans Exode chapitre 19 et 20, eh bien, nous avons vu, oui, Dieu, il est descendu sur le mont Sinaï, et puis le peuple, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Des éclairs, le tremblement de terre, cette voix et tout ça, c'était foudroyant comme expérience. Et puis au chapitre 20, Dieu, qui, de sa propre voix, qui énonce les 10 paroles, les 10 commandements. Et le peuple, après avoir entendu tout ça, il dit « Moïse, écoute, ça suffit, sa fille n'en supporte plus, on a peur, on tremble. Écoute, toi tu lui parles et tu nous rapportes, mais là ça suffit, ça suffit. » C'est Dieu qui parlait, mais sous cette forme-là, c'était terrifiant. Mais lorsqu'ils ont établi le tabernacle, ils ont construit le tabernacle qui était une représentation. Le tabernacle, ils l'ont mis au milieu du camp. Et bien là, tout d'un coup, le peuple s'était plus à l'aise. Il pouvait venir avec un sacrifice, l'offrir pour obtenir le pardon de leurs péchés. Il pouvait venir pour offrir un holocauste de reconnaissance à Dieu. Et tout d'un coup, c'était lorsqu'il y avait cette manifestation physique, ça a été plus facile pour eux de venir vers Dieu. Ils étaient, et finalement, c'était devenu une habitude de venir régulièrement à ce tabernacle et adorer Dieu. Bien, c'est sûr que si on avait gardé Dieu dans sa forme et tel qu'il est, dans sa gloire et sa puissance et tout ça, on serait dans la crainte, dans le tremblement. Et ce serait difficile de nous approcher, surtout quand on a, après s'être regardé, dire « mais lui il est saint et moi je ne suis pas ». Vous savez, si avec une image comme a eu Ésaïe, il voyait Dieu dans sa sainteté et les anges qui disaient « saint, saint, saint et l'Éternel des armées ». Eh bien, même Ésaïe, le grand prophète, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, il a dit « mais moi, je suis un homme pécheur, et j'habite parmi des pécheurs ». Il ne se sentait pas en mesure de pouvoir s'approcher. Mais lorsque ce Dieu vient, est incarné, et devient la forme d'un homme, tout d'un coup, là, on se sent plus à l'aise. Il est un homme comme nous, il nous comprend, on est plus à l'aise de nous approcher de lui, de lui parler. Il va nous comprendre et ça change toute la donne, toute la relation qu'on peut avoir, la crainte terrible qu'on pourrait avoir avec le Dieu du Sinaï. Eh bien, on a le Dieu de Bethléem, de l'étable, ça c'est autre chose. Même les bergers se sont sentis à l'aise de venir adorer, même les mages avec la gloire des hommes qu'ils pouvaient représenter, eh bien, étaient à l'aise de venir adorer. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes à l'aise de venir l'adorer aussi. Et non seulement est-ce que, parce qu'il a établi sa tente parmi nous, parce qu'il a pris établi une résidence parmi nous, mais en plus, il a vécu parmi nous, il a marché parmi nous, l'Épître aux Hébreux nous dira, eh bien, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses pour sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il dit finalement, ça fait toute la différence. Si c'était le Dieu du Sinaï, eh bien, on ne serait pas à l'aise de nous approcher. Hein, mais Moïse a dû leur dire, approchez, mais on dit, oui, mais bon, on supporte pendant un temps, mais on ne peut pas. Mais lorsque on nous dit nous approcher de Jésus-Christ, on dit, oui, je suis plus à l'aise. Parce que il a vécu ma vie. Il a compris ma vie. Il a vécu là où je suis, je peux lui expliquer, et j'ai comme ce sentiment qu'il comprend de quoi je parle. Et ça change toute cette relation. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean, dans son épître, il disait, mais nous l'avons vu, on vous fait le connaître, et c'est vraiment, il est là, c'est possible de s'approcher de lui. Et en fait, c'est même au travers de lui, d'entrer en communion avec le Père, au travers de lui. Et cette communion, c'est justement, c'est là, ça pourquoi nous avons été créés. C'est pour, dans ce contexte de la communion avec Dieu, de pouvoir le glorifier tel qu'il se doit. Hein, donc, et là, parce que Jésus-Christ a été incarné, parce que Jésus-Christ est venu habiter parmi nous, eh bien, nous pouvons, grâce à lui, remplir notre fonction, celle d'adorer le Seigneur correctement. Et c'est extraordinaire. Donc ce message de la naissance de Jésus, c'est un message extraordinaire pour nous. Et ça change tout, ça bouleverse tout. Et donc cette parole qui était avec Dieu, elle est venue habiter parmi nous. Hein, c'est important, ça change tout. Ça change et nous sommes là, c'est parce qu'il est venu habiter parmi nous. Et troisièmement, eh bien nous sommes rassurés de savoir que le Dieu qui était là depuis le commencement, eh bien c'est un Dieu de grâce et de vérité. Et l'ordre est important, grâce et vérité. Si quelqu'un vous aborde premièrement avec la loi, c'est une chose. Lorsqu'une personne vous aborde avec la grâce, et c'est autre chose. Et Jésus-Christ est venu plein de grâce, de vérité. Et c'est important. Et quand ces deux aspects-là, la grâce et la vérité, vous savez, ce sont des éléments qui sont un peu absents dans notre société. La grâce et la vérité, mais ce sont des aspects que Dieu nous révèle, qui sont toujours vrais chez Dieu. Et quand l'apôtre Jean nous écrit cela ici, eh bien, c'est après que Jésus ait vécu sur la terre, c'est pendant ses 33 ans qu'il soit parti, mais il y avait encore du monde qui le connaissait. Et quand il dit qu'il était plein de grâce et de vérité, il y avait du monde qui pouvait dire « Mais oui, c'est vrai ». J'ai connu, vous savez, c'est comme un enterrement, on peut avoir la nécrologie d'une personne qui est lue, cette biographie de la personne. Mais quand on la lit, alors qu'il y a des gens de la famille, des collègues du travail, tout ça, ceux qui l'ont connu, on ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que chacun. Et vous avez peut-être assisté, les gens, il y a des choses qui sont souhaitées, puis on sait, tout le monde sait que c'est vrai, et tout ça. Et bien l'apôtre Jean, là, quand il parle de Jésus, plein de grâce et de vérité, et bien il y a du monde qui est là pour dire, oui, en effet, c'est tout à fait vrai, je peux le certifier, c'était vrai de lui. Donc il ne pouvait pas écrire, c'est pas juste des belles paroles pour nous, mais c'était vrai. Les témoins étaient là pour certifier. Et vous savez, ce qui était important aussi, c'est que, vous savez, la grâce sans la vérité, il n'y a pas de pardon. Quand vous êtes dans une situation, ça arrive, et c'est un peu cruel pour un enfant qui a fait une bêtise, et puis qui vient voir maman, et puis qui dit « Écoute, maman, écoute, c'est moi qui ai fait ça, ceci, cela. » Et puis, elle écoute. Et puis elle se tourne, et puis elle part, sans rien dire. L'enfant, il est là, qu'est-ce que j'en fais? Elle est encore fâchée, est-ce que je me suis pardonné? Il n'y a pas de pardon, il n'y a rien, il est là, tout est en suspens. Peut-être qu'elle n'a pas, exécuté la vérité, elle n'a pas donné son jugement. Elle fait rien, elle dit rien, elle part, elle n'en parle plus. Et l'enfant, il est là, il dit, quand est-ce qu'elle va me le ressortir? C'est pas bon. Et y a plein de gens qui ont cette idée, ils veulent un Dieu uniquement de grâce. Il laisse tout passer. S'il laisse tout passer, il n'y a pas de pardon. Et quand il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de ciel. Si vous avez une croyance en un Dieu qui pardonne tout et laisse tout passer, et puis éventuellement tout le monde va y arriver, eh bien, vous savez, le ciel, ce ne sera pas agréable. Tout ce monde-là avec qui je vis, ils seront là-bas. Tels qu'ils sont, sans aucun changement, aucune transformation, ce sera la même chose. Vous emmenez 500 Américains, vous les emmenez des États-Unis, vous les mettez dans un endroit en France, ça devient comme la petite Amérique, ça ne change rien. C'est pas le fait de se déplacer qui change quelque chose. Si la nature n'a pas été changée, si l'éducation n'a pas été refaite, s'il n'y a pas d'autre notre pensée, c'est la même chose, ça ne change rien. Et donc, la grâce sans la vérité, vous n'avez pas de pardon. Et vous êtes là en suspens, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il y a des religions qui sont comme ça. Oui, ils parlent du Dieu de miséricorde, Dieu de miséricorde, mais tu ne sais pas si tu vas être pardonné. Tu attends le dernier jour du jugement et tu dis « Ah !» Il y a des millions de gens qui sont sous cette on leur parle de la miséricorde de Dieu, et puis sans parler de pardon. Et puis, si je prends le contraire, si je prends la vérité sans la grâce, dites oui, ben, écoute, j'ai peu de chance de m'en sortir, hein, parce que si il n'y a plus que la vérité, il n'y a aucune grâce, j'ai pas de pardon non plus, c'est un jugement, c'est pas de pardon. Et alors j'ai donc dans les deux cas, si j'ai la grâce sans la vérité, pas de pardon. S'il y a la vérité sans la grâce, pas de pardon. On est perdu n'importe comment. Mais lorsqu'il y a grâce et vérité, eh bien, oui, la vérité me condamne et la grâce est là pour m'offrir le pardon. Et je peux être pardonné. Et c'est ça le message de l'Évangile. Jésus-Christ est venu, Dieu est venu, a été incarné, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ça me donne de l'espérance. Ça me donne, ah, là, d'accord, oui, je sais que Dieu, c'est la vérité. Mais aussi, la vérité qui me révèle les choses par rapport à moi, mais après, il y a sa grâce qui est là et qui m'offre le pardon. Donc, là, en quelques paroles, il y a des choses extraordinaires qui font toute la différence et qui distinguent l'Évangile de Jésus-Christ de toutes les autres pensées qui circulent dans le monde. Et c'est sur cette base-là que vous pouvez finalement faire le tri dans le monde et éliminer plein de religions bien intentionnées. Vous savez, le fait de l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus est d'une grande importance pour nous. Hein, finalement, c'est le cœur de l'Évangile. Hein. Bien sûr, la croix, mais il n'y aurait pas de croix s'il n'y avait pas eu la naissance. Et puis aussi, tout l'Évangile, la pensée de l'Évangile, tout ça, eh bien, Jésus l'a vécu devant nous, et nous pouvons comprendre ce qu'il veut dire et ce qu'il recherche en nous. C'est bien pour cela que nous célébrons la naissance de Jésus. Hein, et pendant ce temps, alors que le monde est en train de se paniquer avec des repas et avec des cadeaux et avec des couleurs et avec enceinte, d'essayer de se distraire et oublier les impossibilités de se déplacer, les grèves et tout. Alors que, mais moi, Jésus-Christ, cette vérité, elle est toujours là. Et je baigne dedans. Hein, et même celui qui n'a pas grand-chose et qui dirait, ben, à Noël, ben, moi, ce sera un jour comme un autre. Ah oui, non, tu peux t'arrêter et réjouir de ce que la parole qui a créé le monde, eh bien, cette parole est venue habiter parmi nous et avec nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, s'il est venu pour habiter avec moi, afin que moi, je puisse un jour habiter avec lui dans les lieux célestes. Et donc là, nous pouvons nous réjouir dans tout cela parce que, et là, ça c'est une chose que l'on peut vivre chaque jour. Hein? C'est quelque chose qui change la nature de ma vie quotidienne. Hein? Cette relation avec Dieu, cette communion avec Dieu, le savoir que je baigne dans sa grâce et sa grâce elle est abondante. Et je peux m'approcher de lui, et même mes défauts, mes péchés, ben je peux venir les confesser, il les pardonne, mais ça change tout, et je vis autrement. Et tout cela à la gloire de Dieu. Alors, souvenons-nous de ces vérités, et je veux relire ces versets tels qu'on les a agencés. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Jésus. La parole était avec Dieu et elle a habité parmi nous. La parole était Dieu. Elle était pleine de grâce et de vérité. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour un tel message. C'est sûr que ça ne vient pas d'un homme, parce qu'un homme n'aurait jamais pensé à cela. Il suffit d'étudier toutes les autres religions et si nous voyons qu'elles vont sur une autre manière de s'approcher de toi. Elles essayent de nous offrir des échelles trop courtes pour arriver jusqu'à toi, alors que toi, eh bien, tu tends le bras vers nous. Tu viens parmi nous, tu viens nous chercher. Cette pensée, elle est là. Même Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous prendre. » C'est ce genre de Dieu que nous voulons. C'est ce Dieu qui est dans l'Évangile. C'est le Dieu qui s'approche de nous, qui veut bien vivre parmi nous, qui veut même nous prendre pour que nous puissions être avec lui. Et Seigneur, tout ça, c'est le message de Noël. C'est pas étonnant que les anges se soient réjouis. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir avec les anges de ce qu'il soit né un sauveur à Bethléem, qui est le Christ, le Seigneur. À toi toute la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen.